Bonjour les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien. Je suis pasteur, l'un des pasteurs assistants dans cette église et j'aimerais aussi ajouter toutes mes excuses pour les problèmes techniques. C'est en partie ma faute. Désolé qu'on n'a pas pu chanter les chants. Je crois que c'est réglé maintenant. Mais voilà, c'est comme ça. Dieu est souverain. Heureusement, rien ne se passe qui n'est pas entre les mains du Seigneur. Je m'excuse pour les problèmes là. Mais on va maintenant se concentrer sur sa parole. Et merci, Kez, d'avoir lu le passage, ce magnifique passage. J'ai eu le privilège de préparer ce passage cette semaine. Très bien. Je vais prier brièvement avant de commencer et puis nous allons nous plonger dans ce passage. Oui, merci Seigneur pour ta parole et malgré les petits défis ce matin, que nous puissions avoir les yeux fixés sur toi, que nous puissions avoir nos oreilles ouvertes à ce que tu veux nous dire ce matin dans ta parole, que moi je puisse annoncer ta parole avec clarté, fidélité, avec amour et douceur. Et je prie en ton nom. Amen. Est-ce que tu connais la douleur d'une longue période d'attente? Comme un homme que je connaissais, qui souffrait d'une maladie incurable et pénible, il attendait soit d'être guéri, soit de mourir, mais année après année, rien n'a changé. Ses attentes étaient constamment déçues. Ou comme un demandeur d'asile que je connais dans une autre église, qui risque de mourir s'il retourne dans son pays d'origine. Il attend depuis 4 ans la décision. Année après année, ses attentes sont déçues. Ou comme une femme que je connais de nouveau dans une autre église, qui désire se marier. Année après année, elle attend. Mais aucune relation n'aboutit. Ses attentes sont constamment déçues. Pour toi, c'est peut-être une longue attente pour se remettre d'une maladie, pour avoir un enfant, pour que la justice soit rendue lors d'un procès, pour trouver un travail, pour la réconciliation avec un membre de ta famille, pour la fin de la violence dans ton pays d'origine ou pour la fin d'une pandémie. Dimanche dernier, comme Steve nous a dit, Ben nous a parlé de la longue attente pour la venue du Messie. La longue attente explique pourquoi les bergers ont éprouvé tellement de joie lors de la naissance de Jésus. Et j'aimerais reprendre cette thématique cette semaine pour vous aider, vous aussi, à ressentir la joie de Noël. Pour ce faire, nous allons faire marche arrière vers le passage précédent qui nous parle de la profonde, qui nous parle en profondeur de cette longue attente. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Zacharie. Vous connaissez peut-être l'histoire. Zacharie connaissait plus que quiconque la douleur de l'attente. Lui et sa femme Élisabeth ont attendu des décennies pour avoir un enfant, mais Élisabeth était stérile. On peut imaginer la douleur et la déception qu'ils auraient dû ressentir. Et puis tout d'un coup, un jour dans le temple, un ange lui annonce qu'Élisabeth va enfanter, qu'il va donner naissance à un fils. Zacharie ne le croit pas et Dieu le rend donc muet jusqu'au jour de la naissance de son fils. Et lors de la naissance, Zacharie démontre qu'il ne doute plus les paroles de l'ange parce qu'il nomme l'enfant Jean, comme l'ange lui avait ordonné. Et c'est à ce moment-là que sa langue se délie et il exprime sa joie. Mais bien que Zacharie soit sûrement dans la joie de voir la naissance miraculeuse de son fils, il y a quelque chose de même plus joyeux qui le préoccupe. Vous voyez, l'ange lui avait annoncé que son fils serait Jean-Baptiste, le messager promis dans l'Ancien Testament qui allait annoncer, préparer la venue du Messie. Zacharie se réjouit parce qu'une attente bien plus longue que l'attente pour un enfant est enfin terminée. L'attente pour la venue du Messie. En fait, quelque chose d'extraordinaire se passe. Pour la première fois depuis 400 ans, le Saint-Esprit inspire une prophétie divine. Et nous allons voir que cette première prophétie du Nouveau Testament reprend le fil des prophéties de l'Ancien Testament. Nous allons voir que cette prophétie martèle le fait que toutes les prophéties de l'Ancien Testament se réalisent, s'accomplissent. Enfin, l'attente est terminée. Mais afin de ressentir la joie de Zacharie, nous devons d'abord ressentir la peine, la douleur de cette longue attente. Et c'est notre premier point ce matin. L'attente a été longue. L'attente a été longue. Est-ce que tu as parfois du mal à ressentir la joie dans la vie chrétienne? Moi aussi. Une raison possible est parce que nous n'avons pas vécu la peine de l'attente. Nous n'avons pas dû attendre la venue de Jésus. Nous prenons pour acquis qu'il est venu. Nous avons tendance à ignorer tout l'arrière-plan. Mais ce n'est pas par hasard que l'Ancien Testament représente trois quarts de nos Bibles. Si nous voulons ressentir la joie de Zacharie, nous devons nous projeter dans la peau du peuple d'Israël à cette époque-là. Sa prophétie est remplie d'allusions à tous les espoirs et à toute la longue histoire du peuple d'Israël. Et nous allons regarder brièvement ces allusions pour nous rappeler cette histoire. Par exemple, le verset 72, Zacharie évoque une alliance sacrée. Là, il fait référence à une promesse que Dieu avait faite il y a 2000 ans à Abraham, le père des Juifs. Dieu promet un grand peuple dans un beau pays béni par Dieu et aussi une bénédiction pour les nations. Mais déception. Verset 77, Zacharie évoque le problème du péché. Il sait que les promesses ont été immédiatement menacées par les échecs d'Abraham lui-même et de ses descendants. Mais l'espoir s'élève quand même alors que les descendants d'Abraham deviennent nombreux. Mais déception, verset 71, Zacharie évoque les ennemis d'Israël. En effet, le peuple d'Israël se trouve en esclavage en Égypte. Et l'Égypte sera le premier d'une longue liste d'ennemis. Mais après une longue attente de 450 ans, les promesses sont de nouveau sur la bonne voie. Dieu délivre son peuple de l'esclavage en Égypte. Il leur donne des bonnes lois et il vient habiter parmi eux. Mais déception, le péché surgit de nouveau. Le peuple adore des faux dieux. Et ils sont jugés. Mais l'espoir monte à nouveau à l'entrée dans la terre promise, comme Dieu avait promis. Mais déception, ils tombent de nouveau dans le péché et Dieu suscite des ennemis pour les juger. Ils pourvoient des sauveurs, mais c'est qu'un salut temporaire et ils retombent à chaque fois. Mais, verset 69, Zacharie mentionne la maison de David. L'espoir remonte de nouveau avec le roi David, un roi fidèle au Seigneur. Mais déception, les rois qui suivent David se détournent du Seigneur et entraînent Israël dans de plus en plus de péchés. Mais, verset 70, Zacharie mentionne les prophètes d'autrefois. Dieu envoie les prophètes pour renforcer ses promesses merveilleuses si Israël se repente. Mais déception, Israël refuse de se repentir et Dieu les envoie en exil en Babylone. Mais l'espoir se renaît de nouveau avec le retour dans le pays d'Israël. Mais déception, le peuple tombe de nouveau dans le péché et il reste sous l'oppression de leurs ennemis. Et ça y est, pendant plus que 400 ans, les prophéties s'arrêtent. Dieu en silence de la part de Dieu. Le peuple d'Israël reste soumis à leurs ennemis. La lignée de David tombe dans l'oubli. Pas surprenant que Zacharie parle au verset 79 de « ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort ». Mais oui, ça fait des siècles qu'ils languissent dans les ténèbres de leur péché, du jugement bien mérité et de leur misère. Après tout ce temps, ils devaient sûrement douter que les promesses puissent s'accomplir. Mais ce n'est pas simplement l'histoire d'Israël, c'est aussi l'histoire de toute l'humanité. C'est notre histoire. Quand Zacharie parle de ceux qui sont assis dans les ténèbres de l'ombre de la mort, il fait allusion à Ésaïe 9. Et dans le contexte-là, ce peuple dans les ténèbres inclut les non-juifs. Et un peu plus loin, dans Luc 2, 32, Jésus est lumière pour la révélation aux nations. Oui, les nations n'avaient pas les promesses, la loi, le temple ou une relation privilégiée avec Dieu, mais ils languissaient dans les mêmes péchés, les mêmes ténèbres. Ils avaient leurs propres espoirs, attentes, déceptions, frustrations, péchés, souffrances. Dieu avait même fait des promesses à toute l'humanité avant la naissance d'Israël, à Adam et Ève et à Noé. Dans un sens, il reste dans le cœur de tout homme, inconsciemment peut-être, le souvenir de ce que nous avons perdu et la possibilité, l'espoir de la rédemption. Dans un sens, l'histoire d'Israël n'est que l'histoire de toute l'humanité. Et rien n'a changé aujourd'hui. Les nations languissent toujours dans les ténèbres du péché, de l'aveuglement spirituel, de la malédiction divine prononcée lors de la chute. Les nations espèrent et espèrent quelque chose de mieux. Make America great again. Mais encore et encore, les attentes et les espoirs sont déçus. Par exemple, depuis des siècles, nous avons lutté contre les régimes totalitaires. Et c'est super. Avec l'aube de la démocratie, quels espoirs, quelles attentes ont été suscités. On peut évoquer la gloire et la fierté de l'indépendance américaine ou la Révolution française. Il suffit aujourd'hui de regarder la frustration, la corruption, la déception, les divisions, le désenchantement qui règne dans la plupart des pays démocratisés. On parle aujourd'hui, on dit que la démocratie passe par une crise de mi-vie. Quels que soient nos efforts, nous n'arrivons jamais à retrouver le paradis perdu. Et c'est l'histoire à chacun d'entre nous. Avant d'être chrétien, dit la Bible, nous étions dans les ténèbres. Nous mettions nos attentes dans beaucoup de choses. Pas forcément de mauvaises choses en soi, mais des choses au final qui ne sont pas Dieu. Des choses qui nous déçoivent. En tant que chrétiens, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mais nous souffrons quand même la peine de devoir attendre beaucoup de choses dans cette vie, telles que des choses que j'ai évoquées au début. Vous voyez, l'histoire d'Israël n'est pas si loin de notre histoire. Imagine maintenant si, tout d'un coup, l'attente est terminée et tous tes espoirs deviennent réalité. Le médecin t'appelle pour te dire que cette maladie persistante, il n'y a plus aucun signe de cette maladie. Tu rencontres l'homme ou la femme avec qui tu bâtiras ta vie. Tu trouves l'emploi parfait que tu cherches depuis longtemps. Un vaccin pour le COVID, devient disponible pour tout être humain sur la planète. Imagine la joie. Maintenant, imaginez si, du jour au lendemain, tous les espoirs et les promesses de 2000 ans se réalisent. C'est ça l'essentiel de la prophétie de Zacharie. Avec tout cet arrière-plan, nous commençons à comprendre sa joie. Je vous invite donc de nouveau à vous projeter dans la peau de Zacharie, mais cette fois-ci, c'est pour vous émerveiller. Parce que l'attente est terminée. L'attente est terminée. Examinons tous les éléments de l'accomplissement dans cette prophétie. D'abord, il y a Jean-Baptiste lui-même. Bien sûr que Zacharie se réjouit dans la naissance miraculeuse de son fils, mais notons qu'il ne parle de Jean que vers la fin, et même là, il ne parle pas vraiment de Jean. L'important, c'est ce que signifie la naissance de Jean. Les prophètes Ésaïe et Malachie, il y a des siècles, avaient annoncé la venue d'un messager, un prophète, qui allait préparer la voie pour le Seigneur. Et grâce à ce que l'ange lui a dit, Zacharie sait que son fils, Jean, est ce messager. Jean sera le premier prophète depuis plus que 400 ans. C'est super, mais Zacharie comprend que son rôle, le rôle de Jean, sera justement de préparer la voie pour la venue de Jésus. Verset 77, Jean va donner au peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ce n'est pas Jean qui va sauver le peuple, mais il va annoncer que ce salut est maintenant disponible parce que le Messie arrive. Entre 1969 et 72, NASA a envoyé 12 hommes à la Lune. Mais en 72, tout d'un coup, c'est fini. Mais NASA a promis d'envoyer de nouveau un homme un jour à la Lune. Mais cette fois-ci, ce serait pour préparer une base lunaire pour une mission bien plus grande. Une mission vers la planète Mars. Ça fait presque 50 ans et personne n'a marché sur la Lune depuis 72. On attend et on attend. Imagine un jour si NASA annonce tout à coup qu'ils vont enfin envoyer un homme à la Lune. Et l'ange choisi, c'est un fils. C'est super qu'il y aura de nouveau un homme sur la Lune. C'est super que ce sera ton fils. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ton fils n'est significatif que parce qu'il va préparer la voie pour une mission bien plus grande, la mission tant attendue sur Mars. C'est comme ça pour Zacharie. C'est super qu'il y aura un prophète pour la première fois depuis 400 ans. C'est super que c'est son fils. Mais l'essentiel, au final, Jean est seulement important parce qu'il prépare la voie pour la mission tant attendue de Jésus, le Messie. Jean est simplement le panneau qui nous dirige vers la destination. Vous voyez, au centre de cette prophétie, il y a un enfant. Pas Jean, mais Jésus. Zacharie est conscient que ce n'est pas simplement l'accomplissement du salut en vue ici, mais la venue d'un sauveur. Le salut n'est pas un mécanisme impersonnel et abstrait. Le salut est une personne. Il n'y a aucun accomplissement des promesses de Dieu sans Jésus. Et vous voyez la description de Jésus ici. Verset 69, il est une corne de salut. C'est quoi ça, cette corne? C'est simplement une image de sa puissance. Il est un sauveur puissant. Après toute une histoire de petits sauveurs faibles et temporaires, on a enfin un sauveur puissant qui va sauver son peuple de manière définitive. Verset 69, il est aussi dans la maison de David. Il s'agit du descendant promis à David il y a des siècles, le roi qui va régner sur le trône de David pour toujours. Et verset 78, le soleil levant désigne peut-être simplement le salut, mais c'est peut-être aussi un titre pour le sauveur lui-même, le soleil levant. on sait que Jésus est la lumière du monde qui dissipe les ténèbres de notre péché, du jugement et de notre misère. Quelles belles images pour notre Jésus. Imagine après tout ce temps, toutes ces promesses, enfin le Messie arrive et c'est merveilleux. C'est presque trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si vous savez, mais en dessus du cercle polaire, il y a au moins un jour par année où le soleil ne se lève pas, le 21 décembre. Mais si on va vraiment à l'extrême nord, on a 6 mois de ténèbres. Le soleil ne se lève pas pour 6 mois. Donc imagine le jour, je pense le 21 mars, où le soleil se lève pour la première fois dans 6 mois. Imagine la joie après cette longue hiver pénible. Ça, c'est un peu l'image de Jésus ici. L'hiver est terminé. Les ténèbres sont dissipées. Le soleil se lève. Que c'est beau. Mais Zacharie ne peut pas parler du Sauveur sans parler du salut qu'il apporte. Nous avons vu la profondeur des ténèbres dans lesquelles Israël et l'humanité languissent depuis des siècles. Ils auraient dû être tentés de croire que rien n'allait changer. Mais non, tout à coup, verset 68, Dieu a assuré sa rédemption. La rédemption est un mot qui implique le paiement d'un prix pour libérer un esclave. C'est quelque chose qui a été promis depuis des siècles, depuis les millénaires même. Et Zacharie utilise le temps passé, tellement c'est garanti. Il ignore les détails, bien sûr, mais nous savons que la rédemption a été accomplie à la croix de Jésus, où le Sauveur a payé le prix pour nos péchés, pour nous libérer de l'esclavage au péché. C'est là qu'il a pris sur lui-même la punition que nous méritions. C'est pourquoi Zacharie peut aussi parler du pardon de ses péchés, verset 77. Après des millénaires de péchés, tous ceux qui l'acceptent simplement sont rendus justes, comme ça, purifiés de leurs péchés, sauvés du jugement éternel. Mais au verset 71, Zacharie mentionne aussi un salut qui nous délivre de nos ennemis. De qui s'agit-il, ces ennemis? Nous avons vu que tout au long de l'Ancien Testament, Israël voulait être délivré de l'oppression de leurs ennemis. Mais nous savons aussi que Jésus n'est pas venu pour simplement vaincre les Romains. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et plus tard dans son évangile, Luc évoque la défaite de Satan par la main de Jésus. Jésus est venu au final pour vaincre des ennemis spirituels, Satan, le péché, la mort. Mais ne soyons pas trop vite non plus à ignorer l'interprétation littérale ici. Même aujourd'hui, l'hostilité humaine contre Dieu et son peuple continue, persiste. Et bien sûr, nous sommes appelés à aimer, à pardonner nos ennemis. Mais notre salut ne sera pas complet avant le jour où Dieu juge le monde et nous délivrera de la main de ceux qui nous détestent. Zacharie parle non seulement du salut, mais aussi de ce qui motive Dieu à sauver. Tant de fois dans l'Ancien Testament, Dieu avait rassuré son peuple de son désir de les sauver. Le salut n'est pas un mécanisme froid, mais vient du cœur même de Dieu. Le mot « intervenu » dans le verset 68 décrit le regard favorable que Dieu porte envers son peuple misérable pour agir dans leur faveur, dans sa faveur. Le mot rappelle Exode 4, 31, où le Seigneur intervenait en faveur des Israélites. Il avait vu leur affliction. Et dans le verset 72, c'est sa compassion ou sa miséricorde qui le motive. Bien que son peuple se soit montré encore et encore digne de sa condamnation, Dieu les aime. Il veut les épargner la punition qu'ils méritent. Dans le verset 78, c'est même sa tendre compassion. L'expression veut littéralement dire les entrailles de sa compassion. C'est un peu ça bizarre, c'est un peu bizarre pour nous ça, ces entrailles. Mais en fait, les Juifs, pour les Juifs, les entrailles étaient, la source des émotions les plus profondes. Nous dirions peut-être son cœur rempli de compassion. Voici la tendresse de Dieu pour nous, pauvres pécheurs. Et Zacharie parle aussi du but du salut. Ce n'est pas seulement le pardon des péchés. Verset 74, nous sommes sauvés afin de pouvoir sans crainte lui rendre un culte. Et verset 79, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Cela rappelle de nouveau l'Exode où Dieu avait sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte pour vivre dans sa présence et pour lui rendre un culte, pour le servir. Le salut n'est pas seulement une transaction légale qui nous délivre du jugement, mais c'est aussi la réconciliation avec Dieu. Cela implique un changement de notre part. Il n'y a aucun salut sans la repentance. Ce n'est pas la repentance en elle-même qui nous sauve, comme si notre repentance impressionne Dieu et persuade Dieu que nous méritons d'être sauvés. Ce n'est pas ça. Mais l'amitié de Dieu fait partie intégrale du package de notre salut. Et si nous ne nous intéressons pas à vivre en amitié avec Dieu, nous ne nous intéressons pas au salut. Dieu nous sauve des ténèbres justement pour que nous puissions marcher dès lors dans la lumière, pour vivre des vies justes et saintes, pour l'adorer. Et comme le verset 74 dit, ce n'est pas dans la crainte. Nous le faisons librement parce que nous aimons Dieu et parce que nous savons que même si nous échouons parfois, nous sommes déjà pardonnés. Israël s'était repenti de nombreuses fois, mais il retombait toujours sous le jugement de Dieu. Mais quelle joie de savoir que ce n'est plus le cas. On ne peut jamais retomber sous son jugement malgré nos échecs. Enfin, tous ces éléments d'accomplissement ne sont possibles qu'à cause des promesses de Dieu. Verset 72, Dieu se souvient de son alliance sacrée selon le serment qu'il a juré à Abraham, notre père. L'alliance que Dieu a conclue avec Abraham est comme la colonne vertébrale de l'Ancien Testament. Tous les espoirs et les attentes d'Israël sont fondés sur cette promesse, une promesse élaborée dans de plus en plus de détails, de plus en plus glorieuse tout au long de l'Ancien Testament, mais jamais accomplie jusqu'à présent. Dieu tient toujours ses promesses, même s'il faut attendre des siècles. Les enfants adorent des contes de fées. Il y a toujours une problématique qui semble impossible à résoudre. Mais malgré tout, ça finit toujours avec une utopie pratiquement parfaite. La belle qui sauve la bête ou Blanche-Neige en route pour le château dans le ciel. Mais nous, adultes, nous sommes trop mûrs pour croire dans ce genre d'idéalisme. Ou est-ce que nous sommes trop cyniques, trop amers, trop désenchantés? Pourtant, nous aimons des films avec une fin heureuse. Il y a quelque chose en nous qui espère, qui ose croire parfois que la rédemption est possible. Qui n'aspire pas au final à une utopie? Et si, juste pour un moment, on se permettait de croire que c'était possible, que c'était déjà fait. Les promesses utopiques de Dieu se sont réalisées il y a 2000 ans, dans un bébé, dans une mangeoire. Est-ce trop beau pour être vrai? Je pense que Luc présente Zacharie comme un modèle pour nous. Il s'agit de quelqu'un qui doutait des promesses de Dieu, mais il finit par avoir la certitude que ce salut promis par Dieu dans sa compassion était enfin sur le point de se réaliser dans la personne de Jésus. Et il ne peut que répondre par un cri de louange dans le verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Comme il dit dans l'introduction de son évangile, Luc veut que nous aussi, nous connaissions la certitude de ces choses. Nous avons peur de croire que c'est possible. Nous avons été déçus tellement de fois, je sais. Mais ce n'est pas un conte de fées, c'est une promesse. Dieu a conclu une alliance solennelle et sûre. L'attente a été longue et rude, mais Dieu a accompli ce qu'il a promis. Si nous doutons de ces choses, Zacharie et Luc nous mettent au défi de croire, d'avoir la certitude que Dieu a vraiment accompli ce qu'il a promis. Si vous avez des enfants, vous connaissez la longue attente pénible pour Noël. Mon fils de 4 ans attendait Noël depuis des semaines. L'attente lui semblait interminable, mais que c'était beau de voir son visage le jour de Noël. Oui, en tant que Britannique, on fête Noël le jour de Noël, le 25. De voir son visage ce jour-là, quand il s'est levé et il s'est rendu compte qu'enfin, le jour était là. Au début, j'ai évoqué nos attentes parfois pénibles, douloureuses dans cette vie. Mais aujourd'hui, mes amis, nous sommes comme des enfants le jour de Noël. Même si nous attendons toujours certaines choses dans cette vie, l'attente la plus longue, la plus importante, la plus douloureuse est terminée. L'impossible s'est produit. Nous ne sommes plus dans les ténèbres du péché et du jugement. Les promesses faites à Israël sont ouvertes à tout le monde, juif ou non-juif. Nous ne pouvons que crier avec Zacharie, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Mais nous ne pouvons pas finir sans nous demander, qu'en est-il des promesses qui ne sont pas encore accomplies? Et c'est pourquoi, brièvement pour terminer, on dit, attendez encore avec confiance. Attendez encore avec confiance. Zacharie ne savait pas que certains éléments allaient s'accomplir immédiatement pendant la vie de Jésus, mais d'autres éléments devaient encore attendre. Oui, le péché subsiste dans nos vies. Nous souffrons toujours les douleurs de la vie sur terre. Le monde reste hostile envers Dieu et son peuple. Et nos attentes dans cette vie, telles que j'ai évoquées au début, restent parfois frustrées. Dans un sens, la période d'attente n'est pas encore finie. Nous ressentons toujours la peine qu'Israël ressentait. Mais c'est quand même différent. Ce n'est pas comme si Jésus a laissé certaines promesses inachevées. Non, Jésus a tout accompli. Nous attendons simplement la pleine consommation de sa victoire. C'est pourquoi nous pouvons avoir la certitude que Dieu va un jour mener à terme tout ce que Jésus a accompli. Entre-temps, nous attendons, pas dans la peur et dans le doute, mais avec la joie et la certitude de Zacharie. Oui, nos attentes dans cette vie restent parfois frustrées et douloureuses, mais non seulement nous savons que la plus grande attente, l'essentiel de notre salut, est déjà achevée, mais nous avons aussi la certitude que Dieu va un jour mener à terme toutes ses promesses. Un jour, il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, plus d'hostilité, plus d'attente. Tout au début, j'ai mentionné un homme que je connaissais qui souffrait d'une maladie incurable et pénible. Je l'ai connu pendant les dernières années de sa vie. Il attendait soit de guérir, soit de mourir. Mais année après année, rien n'avait changé. Je lui ai parlé plusieurs fois après l'église et son exemple m'interpellait. Oui, il était souvent découragé, il ne le cachait pas, mais il préférait parler du salut que Jésus avait déjà accompli. Il voulait toujours saisir l'occasion pour m'encourager, moi. Et il attendait avec joie le jour où toutes les promesses de Dieu se réaliseraient pour toujours. Il est parti en paix il y a 3 ans. Son attente était terminée. Dans la peine de notre attente ici-bas, nous attendons avec les louanges de Dieu sur nos lèvres. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël.